être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public en direct et en public de Lyon, où le calme semble revenu 48 heures après l'explosion d'un colis piégé qui a fait plusieurs blessés. Nous sommes ravis de participer ce dimanche aux Assises internationales du roman, un festival annuel pour fêter la littérature dans un endroit que les Lyonnais connaissent bien, les Subsistances, un lieu dédié à la création et aux beaux-arts, qui fut un couvent jusqu'au XVIIIe siècle. Un couvent paisible sur les bords de Saône, voilà qui convient à merveille aujourd'hui à nos visiteurs du dimanche, les journalistes Christine Ockrent et Gérard Courtois, le professeur de relations internationales Bertrand Badi et une invitée spéciale, puisque nous sommes ici pour fêter la littérature, l'écrivain Geneviève Brisac. Bienvenue à vous, merci d'être merci. Aujourd'hui dans l'Esprit Public.
Merci.
En ce dimanche d'élection, chers auditeurs, vous avez ou vous allez voter toute la journée pour élire nos futurs eurodéputés. Et donc, règle du CSA oblige, nous n'avons pas le droit d'évoquer ce matin dans cette émission les enjeux de ces européennes. Voici donc le menu néanmoins alléchant que je vous propose. On essaiera de trouver ce que l'actualité, notamment internationale, a de romanesque, d'épique, de tragique ou de tragicomique, du Brexit à l'affaire Huawei, de Theresa May à Donald Trump. Et puis nous reviendrons sur l'affaire Vincent Lambert dont on a beaucoup débattu en France cette semaine. Une affaire médicale, juridique, politique ou métaphysique? Personnage central de la semaine, Theresa May avait donc annoncé vendredi qu'elle quitterait son poste le 7 juin. Le rejet quasi unanime de son plan de la dernière chance pour convaincre le Parlement de voter son accord de divorce avec l'Union européenne avait sonné le glas de ses espoirs de quitter le pouvoir avec un Brexit enfin sur les rails. Voilà qui allait ouvrir le Beauty Contest ou concours de beauté au sein du Parti conservateur pour lui trouver un successeur. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, faisant figure de favori, même s'il y avait d'autres candidats, charge revenant ensuite à l'heureux élu de trouver le moyen d'engager enfin la sortie du Royaume-Uni de l'Union, près de 3 ans après le vote du Brexit. Theresa May, une héroïne pas forcément très romanesque, qui n'aurait sans doute inspiré ni Jane Austen et encore moins Virginia Woolf, que vous aimez tant, Geneviève Brisac. La saga du Brexit qui aurait à la rigueur séduit Shakespeare entre complot des félons Boris Johnson et Nigel Farage, trahison et fin tragique. Avec un peu d'imagination, on pouvait aussi se croire dans l'Odyssée d'Homère cette semaine, avec l'actualité Huawei, le géant de la téléphonie mobile chinoise. Donald Trump voyait dans les smartphones chinois des chevaux de Troie de son rival Xi Jinping. Le président américain avait donc demandé à Google de ne plus fournir à Huawei sa licence Android et ses services comme Gmail et YouTube, convaincu que Huawei allait se servir de ses équipements à des fins d'espionnage. Trump, ravi au passage de bloquer l'avance prise par Huawei sur la 5G, instrument clé pour développer certaines technologies comme l'intelligence artificielle. Une semaine où Donald Trump, plus que jamais, nous était apparu en uburois. Vous savez, ce personnage d'Alfred Jarry qui se montrait volontiers brutal, irascible et impulsif, obsédé par l'idée d'éliminer ses rivaux. Donald Trump, qui recevait cette semaine dans le bureau ovale ses adversaires politiques, les démocrates américains, avec lesquels il était entré ce mercredi dans une véritable guerre ouverte en raison de cette procédure de destitution dont l'opposition menaçait le président, Trump réclamant, je cite, « l'arrêt de ses investigations bidons », niant avoir voulu étouffer l'enquête chargée de vérifier ses liaisons dangereuses avec la Russie lors de l'élection présidentielle. Ainsi cette semaine, de William Shakespeare à Homère, d'Homère à Alfred Jarry, on hésitait à identifier le genre littéraire ou les auteurs qui correspondaient le mieux à cette époque chaotique et totalement déstabilisante que nous étions à l'évidence en train de vivre.
Merde ! Merde ! Merde ! À la porte !
Toutes les choses dont vous parlez et toutes les choses que vous demandez, j'étais contre à l'époque. Et je suis toujours contre. Je n'ai pas beaucoup changé. Je suis constant. Je suis un génie extrêmement stable.
Quand nous reverrons-nous ? Dans la pluie et dans la boue, sous la foudre et la tempête, à cette heure où le combat qui hurle s'écroulera dans la gloire et la défaite, quand le soleil tombera.
I will shortly leave the job that it has been.
Je quitterai bientôt mon poste que j'ai eu l'honneur d'occuper. La deuxième première ministre femme, mais certainement pas la dernière. Je pars sans rancœur, mais empli d'une énorme gratitude d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime.
Et vous aurez reconnu peut-être le merdre fameux du roi Ubu d'Alfred Jarry, Donald Trump cette semaine après sa réunion conflictuelle avec les démocrates, Lady Macbeth dans une mise en scène de 1959 pour l'ORTF et Theresa May au bord des larmes annonçant son départ vendredi. Bienvenue à vous Geneviève Rizac.
Oui, bonjour Émilie.
Theresa May et la littérature anglaise, pas forcément une très bonne héroïne, ai-je dit, pour Virginia Woolf ou encore moins Jane Austen, à part peut-être les chemisiers parfois fleuris.
La pauvre. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce que Jane Austen ou Virginia Woolf auraient pensé de Theresa May. Elle ne s'intéressait pas énormément à la politique sous l'angle du pouvoir. Elle s'intéressait plutôt au soubassement, au quotidien, aux origines des autres. Ce qui me frappe avec Theresa May, c'est à quel point son statut de femme, pour revenir, est effectivement mis en évidence comme une sorte de Margaret Thatcher en échec, finalement, comme une espèce d'envers. C'est comme ça que je la perçois, un peu comme tout le monde. Donc tragédie de l'impasse, oui, et puis victime aussi de l'explosion de tous les systèmes politiques démocratiques, en l'occurrence du Parti conservateur anglais.
Bertrand Badi, vous l'avez trouvée shakespearienne, Theresa May, cette semaine ?
Non, je l'ai trouvée racinienne. Probablement parce que
quel
Racine.
Honneur, ouais.
Oui, mais c'est aussi une façon de rendre hommage à Racine qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours fait penser, réfléchir. Il y a tout plein de personnages de Racine dans Theresa May. Il y a d'abord Iphigénie, c'est le sacrifice. Double sacrifice d'ailleurs, se sacrifier pour la cause du Brexit, mais aussi pour la cause du Parti conservateur. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de ses malheurs, que d'avoir tricoté ces deux finalités qui ne vont pas nécessairement ensemble. Il y a aussi quelque chose qui fait penser à Andromaque, c'est-à-dire l'irréversible, l'impossible amour, le fait que finalement elle soit prisonnière de deux, et pas des moindres, de ses amours forts. Et il y a aussi quelque chose qui fait penser à Phèdre. Vous savez, Phèdre, ni coupable, ni totalement coupable, ni totalement innocente. Theresa May, dans cette affaire, elle est ni totalement coupable, elle a été victime de beaucoup de choses, ni totalement innocente. Elle a quand même aligné les erreurs. Et puis, il y a quelque chose de Bérénice aussi, c'est-à-dire la séparation acceptée. Bérénice ne se termine pas par la mort de ses personnages, qui est rare chez Racine, mais là non plus, elle accepte, après avoir maintes fois expliqué qu'elle ne pouvait pas démissionner, qu'elle ne pouvait pas lâcher, elle accepte, elle pleure. Bérénice n'a pas pleuré, ce qui prouve qu'il y a quelque chose de plus fort dans les héros raciniens, et c'est pour ça que Christine avait raison de dire que c'était un honneur. Mais après tout, on peut bien lui offrir cette consolation que de la hisser un instant à la hauteur des personnages raciniens.
Bertrand Badi, dans un rôle inédit de professeur de littérature comparée, qui vous va à merveille, cher ami, en ce dimanche matin. Christine O'Crane, je disais Shakespeare, parce que dans Shakespeare, il y a comme ça toute une collection de traîtres et de félons, et on le sait, désormais, la guerre de succession chez les conservateurs est ouverte, dont le favori, Boris Johnson, qui relance les risques d'une sortie de l'Union européenne sans accord, puisque Boris Johnson a déclaré « nous quitterons l'Union avec ou sans accord ». Chez lui, on le sait, le Brexit était quoi, au service d'une ambition personnelle depuis le départ ?
Oui, et d'un opportunisme dont les exemples abondent depuis qu'il fut journaliste. D'abord, il a été élevé à Bruxelles, parce que son père était un haut fonctionnaire des communautés européennes, telles qu'on les appelait ainsi à l'époque. Et donc, le jeune Johnson, il y avait toute une fratrie. Et celui-là, en particulier, s'est distingué très jeune par un comportement véritablement agressif, outrancier, vulgaire, etc. Ensuite, il est devenu journaliste à Bruxelles toujours pour le Daily Telegraph, qui est donc un journal très à droite dans l'échiquier médiatique britannique. Et là, il a tellement bidonné, il n'y a pas d'autre mot, qu'il a quand même fini par se faire expulser. Mais il a été maire de Londres, et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il a incarné la campagne pour le Brexit et tous ses mensonges. Vous vous souvenez des autobus sur lesquels il y avait de grands panneaux en disant « quand on aura fini de payer 200 000 livres par semaine à Bruxelles, on pourra les consacrer à la santé publique, etc. » Des mensonges tels qu'il doit faire face à un procès parce que un citoyen britannique exaspéré a déclenché une procédure contre lui. Et donc ça, ça va un peu gêner sa campagne, puisque maintenant, le successeur ou la successrice, je ne sais pas si on dit ça, oui. c'est pas beau, c'est compliqué.
Ne le dites pas.
Je l'ai pas dit. Il y a une procédure complexe pour arriver d'ici la fin juillet à connaître le successeur. Mais si je peux me permettre d'être totalement en désaccord avec l'éminent professeur Badi, je trouve que Theresa May, c'est plutôt un personnage d'Evelyn Waugh. Vous savez, cet écrivain du début du siècle dernier qui a dépeint avec une cruauté infinie les travers. Alors lui, c'était plutôt la haute société dans laquelle d'ailleurs il baignait. Et ce qui est très intéressant dans la vie politique britannique aujourd'hui, c'est que infiniment plus que la vie politique sur le continent, et je sais qu'on ne peut pas en parler.
Oui, j'allais en effet vous arrêter immédiatement.
Les classes sociales restent extraordinairement importantes. Et donc, on se souvient que ce Brexit a été déclenché par deux jeunes gens qui trouvaient que c'était un coup de dé absolument génial. Donc, c'était le Premier ministre de l'époque, Monsieur Cameron, et son brillantissime ministre des Finances, George Osborne. Donc, tous les deux nés aux meilleurs endroits dans la société britannique, les meilleures écoles, Eton, Oxford ou Cambridge, etc. Et Theresa May était dans ce gouvernement. Elle était ministre de l'Intérieur. Et ils avaient à son égard un mépris de classe. Elle, fille d'un petit pasteur anglican. Et au fond, on a retrouvé dans le personnage de Theresa May et dans son obstination dans l'erreur, qui en a fait un personnage absolument pathétique, parce que elle a eu tout faux, elle a été sans arrêt en contretemps de ce qu'il fallait faire. Et donc, pardon, ce n'est pas Racine, c'est plutôt, encore une fois, un personnage d'une comédie sociale cruelle. Et son émotion était réelle, évidemment, et comment ne pas compatir. Mais je ne peux pas dire, hélas, que ce soit, de ce point de vue, un personnage tragique, parce que, à mon avis, elle n'a pas eu l'ampleur ni de ses ambitions, ni de sa tâche, ni même de son échec.
Ou alors la fille du pasteur nous ramène du côté des sœurs Brontë, peut-être, je ne sais pas, Gérard Courtois. Qu'avez-vous vu ou qu'avez-vous lu cette semaine en Theresa May ?
Moi, j'y ai lu un personnage parfaitement shakespearien, contrairement à Bertrand Badi.
Mais c'est pas contradictoire.
Non,
ça.
Pourquoi ?
Et puis tant mieux qu'il y ait des contradictions ce matin.
Parce que dans Shakespeare, il y a la tragédie et il y a toujours les éléments de burlesque au milieu de la tragédie. Or, il y a dans toute cette histoire depuis 3 ans, ça commence comment pour Theresa May ? Ça commence par « to be or not to be prime minister ». Et elle finit par s'y résoudre pour défendre une position qui est contraire à ses convictions. Elle était discrètement, mais réellement pro-européenne, et elle s'engage dans une aventure qui consiste à faire exactement l'inverse. Ça se termine par, alors c'est une interprétation libre de Richard III, par « My kingdom for a horse », il y a 2 jours, 3 jours, devant Downing Street, et au milieu de tout ça, il y a beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. 3 votes, un référendum fracassant, 3 ans, 2 ans de négociations, 3 votes pour rien, 3 votes, et au bout du compte, une impasse inextricable dont, hélas, nous ne savons pas ce que Shakespeare aurait fait.
Pas mal, j'admire la performance. Vous voulez rajouter quelque chose, Bertrand Badi ?
Oui, là où il y a quelque chose de tragique, c'est que on était dans l'impossibilité absolue. C'est-à-dire que ce dossier ne peut pas être résolu parce que il n'y a pas de volonté majoritaire en Grande-Bretagne. Et donc, tout acteur politique qui a pour fonction de traduire ce vote en acte de gouvernement, nécessairement subit l'échec. C'est Sisyphe, si peut-être une référence pouvait nous réconcilier, c'est Sisyphe. Alors, ce dossier, et vous verrez qu'en 2045, on demandera encore un nouveau report.
Êtes-vous réconcilié par la figure de Sisyphe, Gérard Courtois?
Non, il n'y a pas de volonté majoritaire, il y a plutôt une faille et une opposition apparemment pour l'instant irréductible entre une volonté populaire, celle du référendum, et une volonté parlementaire qui va en sens inverse. Et c'est quand même ça le fond du problème.
Mais il n'y a pas de volonté populaire, Gérard.
Il y a eu un référendum majoritaire.
C'était pour ou contre le Brexit. Oui. Mais il y a différentes formes de Brexit. Et c'est ça qu'on n'avait pas vu. Et que donc, il n'y a pas une option majoritaire. Tous ceux qui ont voté pour le Brexit ne votaient pas pour la même chose. Et traduit donc en projet de gouvernement, c'est impossible. On est dans une logique d'impossibilité absolue. Ça existe, ça, en politique.
Alors que Madame May disait « Brexit is Brexit ». Et donc, la pauvre, elle a répété ça. Et elle s'est elle-même imposée des lignes rouges qui étaient absurdes. Et donc, elle a donné, en fait, à l'équipe de Michel Barnier, négociant au nom des 27, tous les moyens de d'imposer non seulement le rythme des négociations, mais même l'agenda. Donc, pardon, là aussi, d'être en désaccord avec Gérard, je trouve que les personnages de Shakespeare, là aussi, ont quand même plus de talent.
Ou davantage de cohérence.
Et pas moins d'absurdité.
Geneviève Brisac, qui s'amuse beaucoup à vous écouter.
Mais c'est vrai, je suis impressionnée par votre brio aux uns et aux autres. Je me disais, en vous écoutant, que j'étais plutôt d'accord, effectivement, avec Christine O'Krent sur le côté romanesque de Theresa May et non théâtrale. C'est-à-dire que quand on dit Racine, Shakespeare, on pense, et quand on parlera, je suppose, de Trump,
nous y
de
venons.
Poutine, on va évidemment parler de personnages théâtraux. Et le théâtre et le romanesque, ce sont deux choses différentes. Et si Theresa May est un personnage romanesque, c'est que c'est un personnage plus contradictoire et mené aussi paradoxalement, puisque c'est la seule femme dans les personnages qu'on évoque, par une sorte de sens de l'effacement de soi, du devoir, de l'honneur, enfin, des anciennes valeurs viriles qui, bizarrement, sont abandonnées par tous les personnages masculins dont on va parler, mais qui sont réappropriées par ce personnage féminin assez anglais, effectivement, très anglais. On en trouve des quantités. Et effectivement, là, on retrouve le roman anglais dans sa complexité.
Et la fille du
complexité.
Pasteur, en effet, comme vous
le
rappelez,
oui, voilà,
Christine
exactement. Et donc là, on retombe dans une certaine... quelque chose qui pour moi est plus doux, une sorte de douceur romanesque et d'effacement qui me touche assez.
Alors en effet, très loin de cette douceur romanesque que vous évoquiez à l'instant, Geneviève Brisac, on va s'intéresser à l'autre grand personnage de cette semaine. De toute façon, chaque semaine, il est un personnage de l'actualité. Donald Trump, qu'on a pu voir s'exprimer notamment dans l'affaire Huawei et dans cette guerre commerciale avec la Chine, guerre commerciale et technologique. Et puis ce climat de tensions intenses cette semaine avec les démocrates américains. Alors, monsieur le professeur Bertrand Badie, est-ce que Trump, pour vous, définitivement, c'est uberois ?
Oui, je pense que c'est une belle image. Ceci dit, Trump, c'est un miroir, essentiellement. Hein, mon beau miroir, etc. C'est-à-dire quelqu'un dont le verbe n'a pour fonction que de refléter ce que pense l'électorat qui l'a porté au pouvoir et dont il espère qu'il le reportera au pouvoir à la prochaine échéance. C'est-à-dire, il ne faut pas s'esquinter à trouver des stratégies chez Trump. Il n'y a pas véritablement de ligne politique. Il n'y a pas de diplomatie populiste, ça n'existe pas. Hein. Ça a été démontré par bien des auteurs qui avaient maintenant de solides références empiriques, tant les exemples sont variés. Il y a tout simplement un discours de redondance, un discours destiné à conforter ceux qui soutiennent cette sensibilité dans leur peur. Et ça, peut-être qu'on revient ainsi à la création littéraire, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui est gouverné par la peur. Essentiellement la peur de la mondialisation, parce que celle-ci a été un choc, parce que celle-ci s'est imposée rapidement, a complètement changé les valeurs, les normes, les habitudes, les pratiques, les institutions. Et il y a effectivement des artistes qui à la manière, je ne peux pas se dire son nom si j'ai bien compris, de quelqu'un en Italie ou de quelqu'un même ici, qui sont des ingénieurs de la peur, qui savent l'entretenir. Et là, on est tout à fait dans la logique trumpienne. Rien de plus. Ubu avait quand même quelque chose en propre à lui-même. Trump n'a rien en propre à lui-même. Il reflète.
Alfred Jarry disait de son personnage, Ubu parlait de son abomination comique. Est-ce que vous retenez ces termes-là pour parler du président américain, Christine O'Krent ?
Oui, sinon que la langue de Donald Trump est réduite à un vocabulaire de base qui s'accommode donc de Twitter. Et ce qui est très singulier dans la semaine écoulée, c'est qu'en fait, il fait preuve d'une relative cohérence vis-à-vis de la Chine, qu'il obsède depuis longtemps, bien avant d'ailleurs qu'il n'ait été élu président, et aussi vis-à-vis de l'Iran. Et là, il a tweeté lundi dernier en disant « Si l'Iran veut la guerre, l'Iran disparaîtra ». Et trois jours après, il disait à celui qui devrait devenir son ministre de la Défense, il n'a toujours pas été approuvé par le Congrès, il disait « Ah ben non, je ne veux pas la guerre ». Et donc, on est effectivement dans un registre d'une personnalité pour qui la cohérence par l'expression verbale n'est pas obligatoire. Oui.
Comme il l'avait fait avec Kim Jong-un, comme il l'a fait plusieurs reprises
alors
déjà.
Le problème, c'est que les Iraniens se souviennent aussi de ce qui s'est passé avec le Nord-Coréen. Mmh. Donc ça ne va pas nécessairement dans le sens d'une plus grande cohérence. Mais il manque aussi à Donald Trump par rapport à Ubu cette capacité de faire de l'ironie vis-à-vis de lui-même. Il n'a aucun sens de l'humour pour ce qui le concerne. Et d'ailleurs, il se prête tellement à la caricature qu'on a presque scrupule maintenant, au bout de deux ans, à aligner les anecdotes, et notamment les anecdotes les plus vulgaires, dont il est quand même assez friand, lui-même.
Vous avez trouvé d'autres figures représentant dans la littérature le président américain au-delà d'Ubu, Gérard Courtois ?
Puisqu'on y était invité, j'en ai trouvé une. Et je vais vous dire.
Je n'en attendais pas moins de vous.
Je vais vous dire pourquoi. Non, il m'a fait penser à David Goldberg, le personnage d'Irène Nemirovsky, ce spéculateur de haut vol, vorace, cynique, conçoit le monde comme une sorte de casino permanent où on mise au poker à l'intuition et au bluff. Et il m'y a fait penser parce que Golder, à la fin de sa vie, est menacé de faillite. Et pour se refaire, il fait un dernier coup mirobolant. Et où le fait-il ? À Moscou, où il va négocier des contrats d'exploitation et de recherche pétrolière. Et ce petit clin d'œil de l'histoire m'a fait penser à l'actuel président. C'est comme si Golder était devenu président des États-Unis. Alors, voilà, bon, maintenant, le problème, c'est que il est engagé, effectivement, dans une guerre commerciale, technologique, stratégique, avec les Chinois notamment. Et là, la question, moi, la question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, mais peut-être les éminents spécialistes de géopolitique en ont-ils une, les rééquilibrages stratégiques et de puissance au niveau mondial se sont jusqu'à présent, me semble-t-il, toujours faits par la guerre, par la vraie guerre, la guerre militaire. Et la question que je me pose, c'est au fond, est-ce que le degré de mondialisation des économies, d'interdépendance des économies, on le voit bien dans le rapport américano-chinois, est-ce que ce degré d'interdépendance nous au fond, nous protège de la guerre ou de l'éventualité de la guerre.
Est-ce qu'un smartphone peut devenir un cheval de Troie ? C'est la question que je posais au début de cette émission. Est-ce qu'en effet, Bertrand Badi, les guerres du XXIe siècle sont à l'image de ce conflit à la fois commercial et technologique entre la Chine et les États-Unis ? Sur cette question de la téléphonie mobile, qu'est-ce que ce feuilleton Huawei nous raconte de l'époque ?
Alors, c'est inversant. C'est inversant, mais il faut être prudent. Moi, j'aime pas beaucoup qu'on emploie le terme guerre de manière aussi métaphorique pour désigner des phénomènes de compétition qui n'utilisent pas la violence physique. Faut quand même pas oublier une chose, c'est que le principal effet de la guerre, c'est la mort des personnes et des êtres humains, ce qu'il faut jamais perdre de vue. Alors, effectivement, l'enjeu que vous décrivez est un enjeu qui devient capital pour une raison très simple. C'est que les relations internationales ont été depuis fort longtemps, la Renaissance, jusqu'à maintenant, dominée, je suis d'accord avec Gérard, par la guerre, mais d'une façon générale par la politique. C'est-à-dire c'est le politique qui contrôlait et qui tenait toutes les ficelles des ressorts des relations internationales. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on est dans un système d'interdépendance généralisée qui est aussi bien politique que surtout économique, sociale, culturelle, intersociale. On est dans une sorte de tectonique des plaques sociales dans notre monde. Et effectivement, tout ceci contribue à transformer le monde beaucoup plus vite que la conscience que l'on en a. L'autre versant de la guerre, je voudrais quand même en dire un mot, c'est le capitaine Crochet. C'est-à-dire
qui est le capitaine Crochet dans cette histoire?
Aujourd'hui, c'est le feld-maréchal Haftar.
Alors, vous emmenez sur un autre continent, il faut expliquer un peu.
Je suis pas sûr que ce soit sur un autre continent, parce que c'est un phénomène qui tente à se généraliser, en tous les cas, par son impact et son rayonnement.
Mais rappelez-nous, qui est ce personnage-là?
Alors, c'est un seigneur de guerre. Et un seigneur de guerre, un warlord, comme on dit en langue anglo-saxonne, en langue anglaise, le warlord, c'est un personnage qui prend une importance tout à fait remarquable dans notre jeu international actuel, parce qu'il a un effet d'entraînement et de conditionnement bien supérieur à n'importe quel chef d'État.
Mais c'est donc au départ, dans quel pays resituez-nous tout cela?
Alors, il s'agit de la Libye, voilà. Bien entendu. Il s'agit d'un conflit qui a été ouvert, allumé, comme vous le savez, par une intervention tout à fait ratée de trois puissances occidentales au printemps 2011, qui a dégénéré dans une situation de guerre civile. Et dans une situation de guerre civile, il pousse ces champignons très très particuliers que sont effectivement les seigneurs de guerre. Qu'est-ce que c'est que les seigneurs de guerre? Ce sont des individus dont le jeu principal et les bénéfices escomptés, c'est la participation active à une guerre qui leur permet de mobiliser de plus en plus de personnes, de plus en plus de richesses, de plus en plus de moyens, d'avoir un impact sur le jeu social, économique, politique, militaire, international extrêmement important, et qui sont en train de transformer un certain nombre d'États, pas seulement la Libye, en ce que j'appellerais des sociétés guerrières. C'est-à-dire des sociétés qui vivent de la guerre, et oserais-je ajouter, parce que là on est au fond du tragique, grâce à la guerre, c'est-à-dire dont les fonctions sociales traditionnelles sont exercées par la guerre, c'est-à-dire l'économie de guerre, c'est-à-dire aussi la mobilisation. Vous savez, en Afrique, il y a 400 000 enfants soldats. Et ces enfants soldats, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des pauvres gamins qui essayent de survivre, d'être vêtus, nourris, logés, reconnus, parce qu'ils participent à ce jeu de guerre. Alors, puisque je suis racinien, je me suis dévoilé tout à l'heure, c'est un peu le Néron de Britannicus, mais un Néron à l'envers, c'est-à-dire non pas celui qui a le pouvoir, mais celui qui utilise le pouvoir comme cible pour pouvoir créer à son profit, et non au profit de l'État, un pouvoir qui lui est propre. Mais ce qui est terrible...
L'État dans un pays, la Libye, qui a toujours été de toute façon un pays tribal, unifié assez longtemps, il est vrai, autour de la figure de Kadhafi.
Sans jeu de mots, c'est un alibi, ce genre de choses, parce que des substrats tribaux, vous en trouvez dans quantité de sociétés qui sont pas forcément en guerre permanente. La tribu, comme la religion, c'est un substitut quand l'État ne fonctionne plus. Mais il faut aussi se demander pourquoi l'État ne fonctionne plus. Mais ce qui est terrible derrière ce maréchal Haftar, quand j'évoquais Néron, c'est Narcisse. C'est-à-dire tous ces mauvais conseillers qui sont en train de l'attiser, de l'exciter, de lui proposer une liste de cibles. Et les narcisses, le jour d'aujourd'hui, m'empêchent de les nommer parce que certains sont à l'intérieur des 28. Tant mieux pour moi parce que ça m'aurait valu des histoires.
Nous ne les nommerons pas tous, cela dit.
Je ne les nomme pas, mais ils existent. Ils sont pas aussi loin qu'on peut le penser.
Nous ne les nommerons pas tous, Christine O'Krent, même si nous pouvons avoir ou oser ou tenter des analyses sur ce retour des hommes forts dans l'actualité internationale, ce retour des narcisses, comme disait Bertrand Badi à l'instant.
Mais je crois que les hommes forts n'ont jamais
ou
disparu.
Leur multiplication, de prolifération, peut-être, je ne sais pas.
Je crois que les hommes forts n'ont jamais disparu de l'histoire. Ils ont, dans l'époque bénie où l'on pensait qu'il y avait un ordre multilatéral qui s'était imposé, dominé par des démocraties et d'abord, il faut bien le dire, par les États-Unis d'Amérique. Cette période-là, on le comprend, n'est plus. Mais ce n'est pas tellement l'homme fort qui réapparaît, c'est le besoin de l'homme fort, ce qui n'est pas, à mon avis, pas tout à fait la même chose. Mais à côté de ce syndrome qui agite beaucoup d'opinions publiques dans des pays démocratiques, et nous n'en citerons pas, puisque, encore une fois, ce 26 mai, nous n'en avons pas l'autorisation. Mais je crois qu'il est important aussi de souligner, et la réflexion de Bertrand Badi sur ces personnages, ces chefs de guerre qui surgissent, rejoint, je crois, cette idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus seulement les hommes forts à la tête des États. Il y a des énormes entreprises dont le pouvoir est bien supérieur à celui des États. Il y a aujourd'hui une multiplication des acteurs qui va bien au-delà, encore une fois, d'une analyse classique. Oui, l'homme fort à la tête du Kremlin, celui-là, je crois qu'on peut le nommer. Enfin, on connaît son nom.
On se demandera s'il aurait beaucoup inspiré Gogol.
L'homme fort à la tête chinois, avec ce prodige absolu de Xi Jinping, qui a mis au point. Et là, on rejoint cette espèce de débauche technologique. Il a mis au point une plateforme pour que le citoyen chinois, du matin au soir, puisse s'inspirer des réflexions du président Xi Jinping à tout moment de la journée. Et donc, si vous ne consultez pas ce site, vous êtes un mauvais citoyen. Et donc là, on arrive, oui, l'homme fort, la technologie, mais aussi YY. Pourquoi est-ce que YY est symbolique? Parce que ce n'est pas une grande entreprise américaine. C'est une entreprise dont le contrôle appartient pour partie à l'homme fort, en l'occurrence. Donc là, oui, la Chine, aujourd'hui, est sûrement un théâtre où on peut retrouver toutes les composantes que vous nous incitez à décrire.
Certains, d'ailleurs, disent de Donald Trump qu'il y a un sujet ou un domaine dans lequel il est bon, c'est le rapport de force, et qu'il serait peut-être le moins naïf de tous les hommes forts ou leaders du moment quant à sa manière de regarder et d'appréhender la montée de l'hyperpuissance chinoise.
Oui, sans doute. Et là, il faut bien reconnaître que la cohérence, là, il a une cohérence, Trump, à propos de la Chine, et une absence de naïveté. Néanmoins, il n'a toujours rien obtenu véritablement, même si les rapports de force économiques et commerciaux jouent en sa faveur et en défaveur de la Chine.
Geneviève Brisac et puis Bertrand Badi.
Oui, juste un petit mot sur Trump et son personnage ubuesque, gonflé, comme ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup, enfin, deux choses relativement à Trump d'un point de vue littéraire. C'est d'une part, c'est que non seulement il s'exprime par tweet et mots, enfin, vocabulaire très limité, mais l'autre chose, c'est qu'il s'exprime surtout par insultes et par la violence et en créant des événements langagiers liés aux insultes, la bagarre quoi, et ça la punchline, et c'est évidemment ça tout à fait théâtral et tout à fait, une fois de plus, on retourne à Brecht et aux anciens grands noms du théâtre. Évidemment, ça ne va pas dans le sens du romanesque tel que le grand roman américain d'ailleurs nous y a habitué, le roman démocratique qui lui est complexe, ambivalent, travaille dans la lenteur. Là, on est sous le signe quand même de l'algorithme et de l'algorithme accéléré.
Roman est forcément démocratique ?
Je crois, oui, que le roman va avec la démocratie et qu'il est en péril quand la démocratie est en péril. Je crois que toute l'histoire du 19e et du 20e siècle le montre. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est relativement à la Libye. Je pense que les dictateurs... j'ai lu un roman justement très intéressant. Je reconnais que c'est une petite digression, mais enfin après tout.
C'est un matin où on s'autorise complètement la digression.
C'est un roman d'une Italienne qui s'appelle Francesca Melandri et qui raconte les relations entre une famille romaine, italienne donc, et sa part libyenne, puisque vous savez l'Italie, était liée de manière... Enfin, la colonisation en Libye était italienne.
Proximité historique et géographique.
Voilà, exactement. Et on voit surgir donc un jeune réfugié qui arrive en Italie et qui, en fait, est le fils de cette famille romaine. Et donc, ses frères et sœurs vont être extrêmement étonnés. Et donc là, on voit l'intrication des mondes, l'intrication des destins, des tragédies, la tragédie de la Libye et des réfugiés rejoignant la situation italienne sur laquelle on ne se prononce pas, j'ai bien compris.
Vous avez bien compris.
J'ai parfaitement compris. Et ça, c'est intéressant parce que là, on voit le romanesque effectivement s'emparer de ce qui se passe du côté des humains, là-bas, en profondeur, du côté de la Méditerranée, des réfugiés, des individus, en fait.
Merci pour cette digression tout à fait bienvenue. Bertrand Badie, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois, à ce que disait Christine Ockrent sur la guerre technologique et commerciale.
Oui, ce n'est pas une digression, c'est une régression. attention quand c'est on emploie aussi le terme « rapport de force ». Attention.
C'est-à-dire
c'est un piège. C'est-à-dire d'abord que les États-Unis ont étonnamment dominé le monde incontestablement depuis 1989 et en partage depuis 1945. La force ne leur a rien rapporté sur le plan de la pure domination. Les États-Unis ont été battus dans toutes les guerres qu'ils ont menées, hors les guerres de coalition multilatérale. Il ne faut pas l'oublier. La force aujourd'hui, et ça c'est un beau sujet de littérature, la force aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était hier. Et on ne le voit pas suffisamment. C'est-à-dire que la force, les Chinois l'ont très bien compris parce qu'ils ont eu à souffrir de cette force qu'on leur a imposée pendant plus d'un siècle, ce qu'ils appellent le siècle de l'illumination. Cette force qui marche aujourd'hui, c'est plus la force militaire. La force militaire ne fait plus la décision. C'est ce mélange très complexe de puissance économique, technologique, culturelle, sociale, communicationnelle et tout ce qui s'ensuit. Et deuxièmement, le faible a vu sa capacité surévaluée depuis, en tous les cas, la chute du mur. Et qui mène le monde, c'est-à-dire qui fabrique au jour le jour l'agenda international. C'est plus le gros, c'est plus le gras, c'est plus le fort, le puissant, c'est plus Monsieur Muscle. C'est effectivement l'acteur local. C'est l'acteur local qui décide, d'accord, en fait, et le dominant qui réagit. Alors il réagit avec la violence qu'il a à sa disposition et ça donne du spectacle. Ouais. Ça lui donne pas beaucoup de résultats en sa faveur.
Il faut aujourd'hui des héros tactiques, des chevaux de Troie, je disais tout à l'heure, ce qui nous ramenait à Homère, Christine Ockrent. Est-ce que Xi Jinping, de ce point de vue-là, est homérien ?
Non, mais je trouve que Vladimir Poutine l'est davantage, parce que voilà quelqu'un qui finalement a une main, comme on dirait au jeu, assez faible. L'économie russe est à peu près l'équivalent, je crois, de l'économie de l'Espagne. Et il est arrivé, sans doute en exploitant ce que décrit très bien Bertrand Badie, c'est-à-dire un ensemble de circonstances au Moyen-Orient, mais avec énormément de talent, il faut le reconnaître, il a su exploiter chaque retournement sans que sa stratégie de départ ait été annoncée, théorisée, amplifiée, écrite, mais à chaque rebondissement, en quelque sorte, provoqué par des acteurs locaux dont on a vu la sanglante prolifération, qui, à chaque fois, a récupéré à court terme peut-être, mais finalement ça fait jamais que 7-8 ans que cette horreur dure en Syrie, sans parler de l'Irak qui est un État failli, c'est Vladimir Poutine. Donc il me semble que plus que Xi Jinping, oui, il y a une dimension de ce héros d'Homère qui, à chaque fois, par son ingéniosité, trouve profit des circonstances.
Dr Jekyll est parfaitement lucide à Moscou, mais Mr Hyde est une brute. Ouais. Et ça, c'est une figure qui fonctionne.
Avec l'actualité immédiate, c'est bien de le préciser aussi, de ces 3 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans la terreur des bombardements russo-syriens à Idlib, en Syrie, avec cette coalition entre Damas et Moscou. Qui
méprise... Et les centaines de milliers de réfugiés dans des camps, en particulier en Irak, dont on ne se soucie guère.
Geneviève Brisac, Michel Tchaninov, qui est d'ailleurs présent, je crois, aujourd'hui à Lyon, avait été très inspiré par Vladimir Poutine. Il lui avait consacré un livre en 2015, un drôle de livre publié chez Actes Sud qui s'appelait « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Est-ce que c'est un fantasme d'écrivain, de romancière, que de se mettre dans la tête de cet homme-là ?
Alors franchement, j'ai honte. Moi, j'ai jamais eu envie. Je me souviens, il y avait à un moment donné, Libération, il y a quelques années aussi, avait proposé de se mettre dans la tête de Sarkozy. En fait, personnellement, je répugne à me mettre dans...
Alors, je crois qu'Tchaninov, il s'est aussi mis dans la tête de Marine Le Pen. Donc, c'est son
oui,
truc.
Oui, voilà. Bon, en fait, moi, pas du tout. Je vais dire, je crois que j'en suis tout à fait incapable. Je saurais pas le faire, quoi. Donc, j'essaie d'éviter. Michel Tchaninov a fait aussi d'autres choses.
Oui,
il a beaucoup soutenu...
Philosophe, essayiste. Il a fait beaucoup d'autres choses dans sa vie. Heureusement pour lui, d'ailleurs. Peut-être. Gérard Courtois.
Non, moi, pour prolonger ce qu'on vient de dire, je trouve que, et je reviens sur la scène française, un peu étriquée, évidemment, par rapport aux enjeux mondiaux, moi, il me semble, pour les avoir observés pendant un certain temps, que tous les politiques de premier plan sont des personnages romanesques. Tous. Je dis bien de premier plan. Je ne dis pas les grands politiques, ça, c'est une autre catégorie, mais les politiques de premier plan. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont à la fois les mystères, la solitude du pouvoir, les masques, les ambiguïtés. Ils s'inscrivent tous, au fond, dans cette figure romanesque des illusions perdues, à peu près tous. Ils s'inscrivent tous dans ce ressort du Rastignac qui part à la conquête de Paris. Et si on en cite quelques-uns, je ferai très attention aux recommandations du jour.
Je vous fais confiance.
Le plus Rastignac de tous, me semble-t-il, était Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait une ambition tellement décomplexée, goulue et vorace, qu'il était parfait dans ce rôle. Mitterrand, moi, je l'imagine plutôt en Edmond Dantès, mille fois donné pour mort, mille fois ressuscité, et qui, au bout du compte et au bout de sa vie, décidera de se laisser mourir. On va en parler dans un instant. Et puis, il y en a un dont de tous ceux que j'ai pu côtoyer ou observer, dont on pourrait, je crois que c'est le seul dont on pourrait dire ce que Flaubert dit à la fin de l'éducation sentimentale, je suis un très mauvais lecteur, mais je vais quand
même
vous
lire. Vous avez le livre avec vous.
Oui, parce que ça, de mémoire, je ne pourrais pas. C'est le dernier chapitre de l'éducation sentimentale. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint, il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier, il lui rendait insipide. Et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Je pense que ça s'applique assez bien à un personnage que nous connaissons. Sur la scène politique française actuelle.
Mais que vous ne nommerez pas.
C'est le seul dont on imagine qu'on pourrait écrire ça dans 25 ans.
On a compris, je crois. Merci en tout cas pour cette transition toute trouvée. Nous rentrons en effet maintenant en France pour cette dernière semaine de campagne des européennes dont nous n'avons pas le droit de parler aujourd'hui, nous l'aurons bien compris. Une affaire a passionné les Français, l'affaire Vincent Lambert.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Macabre feuilleton que cette affaire Vincent Lambert que nous suivions depuis des mois, où le cas de cet ancien infirmier de 42 ans dans un état végétatif depuis 2008 et avec des lésions cérébrales jugées irréversibles depuis un accident de voiture, dont les parents s'opposaient toujours à l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle, ce qu'acceptaient en revanche son épouse, son neveu et ses 6 frères et sœurs. L'interruption de ces traitements avait été enclenchée lundi dernier, déclenchant rassemblements et mobilisations, notamment devant le CHU de Reims. Les parents avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme selon une procédure d'urgence. Celle-ci avait rapidement annoncé le rejet de la requête. Le président de la République avait de son côté refusé de s'en mêler. Mais finalement, les parents de Vincent Lambert avaient obtenu gain de cause lundi soir grâce à la Cour d'appel de Paris qu'ils avaient également saisie et qui avait ordonné, elle, le rétablissement des traitements visant à le maintenir en vie jusqu'à ce qu'un comité de l'ONU se prononce sur le fond de son dossier, ce qui prendrait 6 mois. Enfin, il fallait préciser que les parents avaient également déposé une plainte disciplinaire pour demander la radiation et des poursuites pénales contre le docteur Sanchez, le chef de l'unité de patients cérébro-lésés du CHU de Reims, l'homme qui avait pris le 9 avril dernier la décision d'arrêt des traitements. Une affaire qui soulevait des questions abyssales. Qui avait le pouvoir de choisir entre la vie et la mort ? Vincent Lambert était-il en fin de vie ? Pratiquait-on sur lui une forme d'acharnement thérapeutique ? Cesser de l'alimenter ? Était-ce une forme d'euthanasie ? Que disaient ces débats de notre rapport à la mort, à la douleur, à la conscience et à l'inconscience, à la transcendance ? Et que faire d'un patient qui portait désormais avec lui, exposé au regard de tous, de si vertigineuses interrogations ?
On te lâche pas, Vincent. Voilà, on est là. Hein ? T'inquiète pas.
Le voir partir, c'est le voir en homme libre. Le message que je voulais passer, c'est que chacun peut avoir son opinion et ses propres convictions et que la liberté de Vincent n'entrave en rien la liberté des autres, mais surtout qu'on nous laisse dans notre intimité et que ça se fasse... qu'on nous laisse dans la discrétion maintenant.
Aujourd'hui, nous ne nous résignons pas devant les pleurs d'une mère, devant les angoisses d'un père, d'une famille et de tous ces patients cérébro-lésés qui attendent dans l'angoisse et qui se disent... À qui le tour ?
Vincent doit vivre ! C'est la décision de la Cour d'appel de Paris !
Voilà, vous avez entendu d'abord la mère de Vincent Lambert à partir de cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, sur certains médias, où elle est au chevet de son fils, regardant le vide. Et puis on a entendu ensuite la femme de Vincent Lambert qui, elle, réclame de la pudeur et de la discrétion et puis ses manifestants devant l'hôpital ces derniers jours. Geneviève Rizac, nous parlions de héros et de personnages tout à l'heure. Pourquoi et comment Vincent Lambert est devenu le héros involontaire, malgré lui, d'une bataille idéologique sur la fin de vie ? Est-ce que c'est cela qui est à l'œuvre d'ailleurs ?
Il y a visiblement un certain nombre de choses qui sont à l'œuvre simultanément. Il y a la première chose que je vois, c'est le rôle que joue le spectacle, la télévision, la possibilité de donner à voir à tout le monde une intimité, franchement, là, outragée. Donc c'est vrai que ça inspire d'abord le dégoût. Enfin, moi, c'est la première chose que ça m'inspire, c'est un léger désir de détourner le regard, de ne pas être sommé de regarder ces vidéos, de regarder des gens en train de crier leur joie, comme on l'a dit très justement, comme si c'était un match alors qu'il s'agit d'un être humain. Et à qui s'identifie-t-on ? C'est toujours la question que moi je me pose comme écrivain. À qui on s'identifie ? Est-ce qu'on s'identifie à la mère de Vincent Lambert, mais assez difficile, à lui-même, c'est a priori normal de s'identifier à lui, le sujet de ce destin, de cette histoire, ou à sa femme. Alors, visiblement, la dimension politique, c'est le côté, enfin, qu'autrefois, on appelait le côté laisser les vivre, hein, le côté professeur Lejeune, le côté des catholiques à l'assaut des pistes qui veulent, enfin, comme on lutte aujourd'hui contre le droit à l'avortement, enfin, il y a un combat politique violent qui n'a rien à voir avec l'autre débat qui est le cas précis de cet individu.
Et avec ce débat d'un coup qui est devenu très présent, très prégnant cette semaine, Bertrand Badi, où on avait droit à des sujets à la télévision sur des gens qui se demandaient si du coup ils allaient aller chercher le fameux formulaire qui permet d'indiquer ces consignes pour la fin de vie, comme si les Français se souvenaient en effet qu'un jour ils allaient peut-être mourir et peut-être dans un hôpital.
Peut-être sûrement.
Tout est glaçant dans cette affaire. Tout incite au, effectivement, comme vous le dites très bien, à détourner la tête. Pour moi, dans mon métier, dans ma discipline, ça pose une question qui est une question très forte, qui est le passage au politique. C'est-à-dire, là, nous sommes face à ce qui relève le plus parfaitement de l'individu. Et d'un double point de vue, l'individu dans sa liberté et aussi l'individu dans sa singularité, c'est-à-dire chaque cas d'affrontement à la mort est un cas particulier qu'on ne peut pas généraliser. Et effectivement, si j'avais à remplir ce fameux questionnaire, je ne pourrais pas le faire parce que je ne sais pas ce que serait la situation qui serait la mienne à ce moment douloureux. Mais ce qui est terrible, c'est que le rôle de l'entrepreneur politique, c'est de tout convertir au politique. Alors, il y a un autre exemple tragique qui n'a peut-être pas l'intensité de cette douleur, quoique, qui est la question migratoire. C'est-à-dire la question migratoire, on ne peut plus la traiter parce qu'on en a fait une marchandise électorale. On en a fait une marchandise politique. Et ce qui compte dans le migrant, c'est pas celui qui finit au fond de la Méditerranée, c'est le bulletin de vote que rapporte le fait qu'on essaye de l'expulser ou, en tous les cas, de lui claquer la porte au nez. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on est en train de faire passer cette question éminemment individuelle et personnelle dans le débat politique et probablement électoral, parce qu'il n'y a pas de démarche de conversion politique qui soit innocente. Et cette manière de travestir, de reconstruire en politique ce qui relève du choix humain individuel est quelque chose de profondément écœurant. Je pense que la survie de notre société passe aussi par ce respect humain qui est un respect totalement métapolitique, qui doit être placé en dehors du débat politique et a fortiori du débat électoral. C'est très dangereux parce que c'est en train de reconstituer une nouvelle droite extrême. C'est-à-dire la droite extrême qui s'empare de ce dossier pour aller à la rencontre de ce que je désignais tout à l'heure, c'est-à-dire la peur. C'est aussi une façon de gérer la peur de l'autre, la peur de mourir, et d'en faire effectivement un élément d'attraction.
Alors, est-ce que c'est un débat électoral ou est-ce que c'est un débat politique ou sociétal au sens plus large, puisque ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a ces débats-là, Christine Ockrent, au moment du vote sur les lois bioéthiques, au moment du vote des lois Leonetti, ce n'est pas non plus nouveau, il ne surgit pas dans cette campagne, ce débat-là.
Une loi existe, la loi Claeys-Leonetti, qui certes a ses ambiguïtés et tout le problème dans cette histoire affreuse, et je trouve que Geneviève Brisac l'a très joliment dit, c'est atroce. C'est une guerre des familles, c'est une guerre des médecins, c'est une guerre des juges, les juges judiciaires et les juges territoriaux, parce qu'il n'y a eu aucun consensus à aucune étape. Mais il me semble, Bertrand Badic, on n'est pas dans une phase politique. Le problème est de savoir si il s'agit d'une décision judiciaire ou d'une décision médicale. Et en fait, le dernier épisode, c'est qu'on a fait passer, on a dépassé la loi Leonetti, qui définit avec toute l'ambiguïté que la décision entre la vie et la mort induit, qui définit ce que serait, je cite, l'obstination déraisonnable par rapport à une décision médicale. Mais là, on a fait glisser le débat sur la question du handicap, qui est en dehors de la loi Leonetti. Et donc, il y a aussi une instrumentalisation de la justice, de ce point-là. Alors là, peut-être, Bertrand, effectivement, on rejoint le politique. Mais
oui, parce que les pro-life reprochent à cette loi de confondre le handicap et la pathologie. Puis il y a tout ce débat juridique autour de deuxième loi Leonetti de 2016, qui parle désormais de traitement et non de soins élémentaires pour ce qui relève de l'alimentation et de l'hydratation artificielle.
Ça ne concerne pas le handicap. Et donc, c'est là où il y a eu ce glissement. Mais plus profondément, et Gérard Courtois évoquait François Mitterrand, on se souvient de cette formule admirable sur je crois aux forces de l'esprit. Est-ce qu'il faut croire au prolongement du corps quand le corps est absent ou quand l'esprit est absent? C'est toute la question. Et je trouve que dans la manière dont les Français apparemment découvrent effectivement cette possibilité, avec toute la difficulté qu'on peut imaginer, mais de remplir cette directive anticipée en nommant des personnes de confiance qui, au moment fatidique serait à même d'orienter une décision. C'est une démarche, rappelons-le, qui existe dans d'autres pays. En Belgique, c'est codifié de façon très nette. En Belgique, il n'y aurait pas d'affaire Lambert, parce que c'est l'épouse qui a la première décision, ensuite les enfants et ensuite seulement les parents. C'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Suisse.
Très brièvement, Bertrand Badi et Gérard Courtois.
Notez bien, Christine, que le débat n'est ni juridique, ni médical, ni même
social.
Il est juridique. Il est peut-être pour vous, mais je veux dire, lorsque l'on entend l'argumentaire qui est opposé notamment par la mère et tous ceux qui l'entourent de Vincent Lambert, le débat ne porte ni sur la loi, ni sur les décisions judiciaires, ni sur le médical.
Il est idéologique.
Ça s'appelle le passage au politique.
Même s'il s'appuie quand même dans les termes sur la deuxième loi Leonetti, je le précise. Gérard Courtois.
Mais je crois que c'est absolument indispensable de rappeler le cadre de cette loi et à travers le cadre de cette loi, de dire et redire. Et là, je suis en divergence, me semble-t-il, avec Bertrand Badi, l'utilité du politique. Parce que cette loi, précisément, fixe quoi ? Elle fixe le cadre d'une espèce de sagesse pratique, d'éthique de la discussion, de la collégialité médicale et du consensus entre les équipes médicales et les familles, qui me paraît une quelque chose de positif par rapport à ce qui prévalait avant, c'est-à-dire une sorte d'hypocrisie. Ça n'est pas péjoratif. J'emploie le terme de manière non péjorative parce que c'est le terme qu'employaient autrefois les médecins et qu'ils emploient encore souvent. L'hypocrisie qui consiste au fond à se débrouiller de tout ça en parlant le moins possible avec les intéressés. Donc ce cadre-là, fixé par la loi Leonetti, me paraît extrêmement utile. Il est probablement, par rapport effectivement à la loi belge, un peu imprécis et gagnerait à être amendé sur ce point. Mais là où vous avez raison, c'est que l'argumentaire des parents et des avocats des parents de Vincent Lambert est tout à fait surréaliste. Tout à fait surréaliste, puisque au fond, ce qu'ils disent, c'est... Il refuse que l'humain puisse modifier la nature. C'est ça, au fond, le socle de leur argumentation. Et c'est le socle de l'argumentation de tout ce qu'on appelle les pro-vie, les pro-life, etc., contre, effectivement, vous le rappeliez, l'avortement, la GPA, la PMA, etc. Et donc, la fin de vie telle que elle peut s'organiser maintenant. Mais d'un mot, pour les mêmes raisons, il revendique que l'humain puisse modifier la vie en entretenant la vie artificielle de leur fils.
Merci Gérard Courtois, refermons ce débat un peu macabre. On se quitte en musique, comme toujours désormais, la musique qui est au cœur de vos livres, Geneviève Brisac. Et je crois que vous aimez tout particulièrement ce Clair de Lune de Debussy, interprété au piano par Philippe Cassard. Et il y a évidemment un lien avec la littérature, puisque Debussy, vous le savez évidemment, pensait en composant cette musique aux fêtes galantes de Verlaine. Et puis cette musique, c'est aussi celle de la Naveva, Vogue le navire, merveilleux film de Federico Fellini. Que lire pour comprendre l'époque ou pour l'oublier ? J'ai exactement le livre qu'il vous faut cette semaine pour fuir l'époque, le réel et ce monde. Il y a Vertige du cosmos qui vient de paraître chez Flammarion, de l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, qui consacre son nouveau livre à la fascination de l'homme pour le ciel et qui a expliqué au point cette semaine, je le cite, « Le cosmos, c'est comme une mélodie dont on perçoit presque toutes les notes, mais dont l'harmonie sublime nous échappera toujours. » Qui veut recommander un livre pour terminer cette émission ? Pour comprendre l'époque ou pour la fuir, Geneviève Brisac.
Oui, moi je vous recommanderais à tous, à toutes, un livre de Natalia Ginzburg qui s'appelle Les Petites Vertus, et où elle, la grande écrivaine italienne qui est disparue aujourd'hui, mais qui parlait merveilleusement de son époque, la nôtre, fin du XXe siècle, disons, évoquait la nécessité non seulement des petites vertus, mais des grandes vertus, disait-elle, qui sont celles qu'il faut apprendre aux enfants. Le courage, l'honneur, etc., etc.
Merci infiniment Geneviève Brisac d'avoir été aujourd'hui l'invité exceptionnel de l'Esprit public. Merci à vous trois, chers visiteurs du dimanche. Merci à Léa Capuano qui a préparé cette semaine avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée. Merci à la technique aujourd'hui, à Marc Carvenas, à Jean-André Giannichini, à Alexandre James, à Stéphane Beaufis et à Franck Malabry. Et bien sûr, merci à tous ceux qui nous accueillent aujourd'hui pour ces très belles assises internationales du roman. Tout de suite, Caroline Brouet nous a préparé un déjeuner du dimanche tout en asperges. Et ensuite, au menu de Signe des temps, peut-on construire une histoire européenne avec notamment le romancier Olivier Guèze. Et puis à 20h, n'oubliez pas, notez-le, la grande soirée électorale de France Culture, de 20h à 22h15, avec Olivia Gesbert. Et vous y serez de nouveau, Geneviève Brisac, et vous aussi, Gérard Courtois, en compagnie de Simonetta Greggio et notamment de Michel Fouché. Merci à vous d'être venu nous rencontrer ce matin à Lyon. Merci à vous qui nous écoutez, où que vous soyez. Très bon dimanche à tous. À la semaine prochaine, 11h, l'Esprit public sur France Culture.